États-Unis, anatomie d'une démocratie.
3 ans après la prise du Capitole, la démocratie américaine est fragile, violente et au bord du chaos. Kamala Harris, comme Donald Trump, prétendent vouloir la sauver. Mais quelle est la véritable histoire de cette démocratie? Un modèle ou une utopie jamais réalisée?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Romain Huré.
Épisode 1. 1776, la peur de la démocratie.
Rappelez-vous, la démocratie ne dure jamais longtemps. Elle gaspille, s'épuise et se meurt. Il n'y a jamais eu une démocratie qui ne se soit suicidée. John Adams, 1776. Bonjour Romain Huré.
Bonjour Thomas.
T'es l'un de nos meilleurs, sinon le meilleur historien des États-Unis. Une réflexion d'abord sur cette définition-là de la démocratie. Ça peut sembler surprenant pour les gens qui nous écoutent que l'un des pères fondateurs, l'une des personnes qui a rédigé la Constitution américaine, disent à ce point tout le mal qu'ils pensent de la démocratie. Ça veut dire que l'Amérique n'est pas une démocratie en 1776, elle ne se pense pas comme une démocratie, elle se pense même contre la démocratie.
Contre, ça serait fort, mais en tout cas, elle se pense avant tout comme une république. Et les pères fondateurs réfléchissent beaucoup à l'idée républicaine, qui est très présente dans la culture des Lumières, dans la culture politique de la génération des fondateurs. Et Adams espère créer une république exceptionnelle, universaliste, à un moment où il y a très peu de républiques dans le monde.
Oui.
Il ne faut pas l'oublier, la révolution des États-Unis, c'est la première grande révolution du XVIIIe siècle, bien avant la Révolution française. Et donc ils sont un peu seuls, ils inventent un concept politique, ils l'utilisent, res publica, république, et ils vont y mettre tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils croient pouvoir tenir dans un corps politique, et ils vont exclure beaucoup de monde.
Alors justement, est-ce que c'est ça qui explique que ces mots durs envers la démocratie, c'est qu'ils sentent bien que leur régime ne peut pas être démocratique, parce que démocratique, ça veut dire que tous les gens qui vivent là sont des citoyens potentiellement à part entière.
Il y a 2 interprétations de la phrase. La première, c'est de dire que Adams connaît bien son histoire et il sait très bien que les républiques se sont toujours effondrées dans l'histoire du monde. Au Moyen-Âge, à l'époque moderne, sous l'Antiquité, la République romaine, on a eu des échecs de la République, de la forme républicaine. Et donc, on peut lire dans le message aussi une allusion à la disparition inexorable de ces tentative de créer un corps politique plus démocratique avec beaucoup de citoyens, contrairement à l'oligarchie ou à la monarchie. L'autre manière de faire, c'est aussi un aveu, c'est-à-dire que la République qui est créée en 1776 exclut énormément de monde. Elle exclura les Afro-Américains, elle exclut les femmes, et elle est majoritairement une République d'hommes blancs, tous propriétaires terriens, beaucoup propriétaires d'esclaves. Et donc il y a un paradoxe tout à fait étonnant au départ, où une petite élite va prétendre incarner l'ensemble de la population.
Il faut quand même faire une toute petite incise et expliquer comment on doit distinguer république et démocratie. Je pense que c'est important. C'est quoi la différence? Ça veut dire quoi une république? Ça veut dire quoi une démocratie? Partons des bases quand même.
La démocratie, c'est très simple, c'est le peuple qui gouverne.
Oui.
C'est le peuple qui délègue son pouvoir dans l'ensemble de représentations électorales. La république, elle est par nature, elle peut être plus restreinte, puisqu'il y a des dispositifs qui permettent d'encadrer le vote, d'encadrer la démocratie. Et Adams et les autres réfléchissent à ça, à un système de checks and balances, une république inspirée de Montesquieu, inspirée des Lumières écossaises, qui soit parfaite et qui permette, grâce à de subtils habillages politiques, de donner la citoyenneté à certains, de l'enlever à d'autres, et de préserver ce qui caractérise aussi la République à ce moment-là aux États-Unis, c'est l'union, puisque cette République va être fédérale dès le départ, et elle va être une union de 13 États avant que cette union s'élargisse dans les années à venir.
Donc un idéal républicain basé sur une stricte séparation des pouvoirs, davantage qu'un idéal démocratique. Je t'ai coupé quand tu commençais à dire qu'il y avait beaucoup d'exclus du système politique américain à l'époque. En effet, en 1776, l'esclavage est loin d'être aboli aux États-Unis.
Non, il est très loin d'être aboli. C'est même un des éléments les plus perturbants pour les pères fondateurs. Ils savent très bien que
eux-mêmes sont perturbés par cette idée-là.
Ils sont
eux-mêmes qui ont parfois des esclaves eux-mêmes.
Ils ont des esclaves eux-mêmes. Et Thomas Jefferson, il ne faut pas oublier, vivait avec son esclave, Sally Hemings. On a découvert ça récemment, cette histoire qui a ressurgi à la fin du XXe siècle aux États-Unis et qui a rappelé que le père fondateur passait sa vie en concubinage avec une esclave afro-américaine. américaine, donc quelque chose qui a beaucoup fasciné l'Amérique, sur les contradictions de ces pères fondateurs, hein, qui d'un côté n'accordaient pas la citoyenneté complète aux esclaves, et de l'autre côté un quotidien où ils pouvaient vivre et partager la vie sur des plantations. Donc il y a un vrai paradoxe initial, hein, extrêmement fort, qui montre bien à quel point la République qui est fondée en 1776 est pétrie de contradictions. Les Amérindiens n'en font pas partie, oui. Les Afro-Américains n'en font pas partie, les femmes n'en font pas
bien
partie.
Bien sûr. C'est que le droit de vote des femmes, c'est pour bien plus tard.
C'est 1920, donc oui. Il faudra attendre très longtemps.
Avant la France tout de même.
Avant la France.
Oui. Mais 1920.
Mais 1920. Et ces contradictions sont vécues de manière très différente par les pères fondateurs et par les premiers citoyens. Certains, comme Jefferson, pensent qu'il y aura des étapes à l'intégration définitive, et donc on peut aller vers un schéma démocratique dans les années à venir. Lui-même pense qu'en civilisant les Afro-Américains, les Amérindiens, il sera possible un jour de les intégrer dans la République, alors que d'autres, en particulier dans les États du Sud, qui sont très racistes et qui ont plaidé en faveur de cette exclusion des esclaves, là, il y a souvent une ligne extrêmement dure, et on pense que ces citoyens Afro-Américains ne doivent jamais être intégrés dans la République états-unienne.
Et c'est justement pour cela qu'après la guerre civile, comme les Américains le disent, la guerre de sécession, comme on l'appelle plutôt ici, les États du Sud vont tout faire pour maintenir une sorte de statu quo qui exclurait de fait les Africains américains, les descendants d'esclaves, ou les esclaves affranchis, de la citoyenneté. Raconte-nous comment ça se passe. On est en 1865, donc l'esclavage est aboli par la victoire des États du Nord dans la guerre de sécession, la guerre civile. Comment est-ce que les États du Sud vont essayer de, et parvenir souvent d'ailleurs, à maintenir le statu quo ?
Alors d'abord, ils perdent la guerre. Oui. C'est une étape extrêmement importante qui montre à nouveau les tensions qui traversent la société états-unienne. Une guerre civile va être menée entre des États, une désunion, comme disaient les pères fondateurs, va être menée pour émanciper l'ensemble des esclaves. Le Nord l'emporte et le Nord impose à la fois sa vision de la République son modèle économique aussi. Beaucoup de nordistes vont s'installer dans le Sud et expliquer aux sudistes comment faire fonctionner l'économie et comment transformer la société. Ça va être très mal vécu par les populations du Sud. C'est là où va naître le mythe de la cause perdue. Il y aurait eu un âge d'or du Sud avant la guerre de sécession où les esclaves étaient heureux et émancipés dans la société malgré le fait qu'ils n'aient pas le même statut juridique et légal. La réaction du Sud va être de contourner la Constitution, puisqu'il est désormais interdit d'avoir des populations réduites en esclavage dans le pays. Et donc, ils vont mettre en place ce qu'on appelle les lois Jim Crow, qui sont des lois de ségrégation, qui sont une séparation de l'espace public entre, d'un côté, une population blanche et, de l'autre côté, une population dite « colored », de couleur. Et on va voir dans tout l'espace public apparaître une séparation extrêmement stricte.
Avec une fable. La fable, c'est de dire: nous sommes séparés, mais nous sommes égaux.
Voilà, c'est ce
equal but separate.
C'est ce que dira la Cour suprême dans une décision Plessy versus Ferguson, extrêmement célèbre, mais très controversée, où la Cour suprême va répondre...
En quelle année, c'est ça ?
1896.
Oui.
La Cour suprême va répondre en disant qu'il n'y a aucun problème à avoir à la fois une séparation des populations dans un même espace, et de l'autre côté... Une égalité naturelle, en quelque sorte.
Ouais.
Et donc, on peut tout à fait vivre dans ces États avec ce double régime de la séparation et de l'égalité.
Ça se traduit dans tous les aspects. Les écoles, bien sûr, les transports publics, les salles de spectacle, bref. Partout, il y a une séparation. On a vu aussi des tas d'images dans des piscines interdites aux Noirs, par exemple, et aux chiens, parfois. Bref, on est dans cette Amérique-là, quand même.
Oui, c'est une Amérique extrêmement violente. C'est un ordre social et racial d'une très, très grande violence. Les transports en commun sont ségrégés, la vie scolaire, toute la vie. Il faut imaginer ce monde complètement séparé et qui va durer très longtemps, puisqu'il faudra attendre le milieu des années 60 et la campagne de Martin Luther King et d'autres pour voir mettre un terme, enfin, à ce régime de la séparation légale.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans les États du Sud, on va mettre en place des tas, on a beaucoup d'imagination pour empêcher l'accès au vote. des Africains-Américains. Peut-être tu peux nous en dire un mot, parce qu'on est au cœur de notre sujet sur la démocratie américaine. Là.
Les antidémocrates sont parfois très subtils et très forts dans leur capacité à exclure les populations. Hein, et ils vont mettre en place toute une série de dispositifs juridiques, de tests d'alphabétisation, à la fameuse clause du grand-père, où il fallait... on était électeur si son grand-père avait été lui-même électeur et citoyen. Donc ça a exclu...
Sauf que le grand-père était esclave.
Le grand-père étant esclave, ça excluait une grande partie de la population. Et on met en place des tests d'alphabétisation, hein, qui vont exclure une grande partie des Afro-Américains. Donc un dispositif extrêmement dur, hein, il faut surtout pas l'oublier. Dans les États du Sud, on a une ségrégation très forte, très violente, contre la population afro-américaine. Et donc à nouveau, un paradoxe, hein, gigantesque, hein, de cette République états-unienne.
Un dernier mot quand même, parce que cet accès difficile au vote, il va quasiment disparaître dans les années 1960. Tu peux nous dire comment il va disparaître et surtout comment il va réapparaître dans les années les plus récentes, parce que l'histoire n'est pas linéaire, l'histoire de la démocratie américaine n'est pas celle d'un accès et d'une émancipation de plus en plus forte des populations qui étaient exclues du vote.
Non, tu as tout à fait raison, hein, c'est tout sauf une histoire linéaire. Dans les années 60, il va y avoir ce gigantesque mouvement, hein, populaire, massif, interracial, puisqu'on aura des blancs et des noirs dans le mouvement, hein, qui est le mouvement pour les droits civiques, oui, qui va naître d'abord à la suite de sit-in, hein, et d'opposition de jeunes et de moins jeunes à l'ordre racial dans le Sud.
Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens to move into Washington, to go by plane, by car, bus, any way that you can get there. Walk if necessary.
Ces chants que vous entendez, ce sont ceux qui s'élèvent en ce moment à Washington. 150 000 Noirs les reprennent en chœur. Un cri pour la justice et la liberté. Aujourd'hui, cette marche du 28 août met le peuple américain au pied du mur, l'oblige à prendre conscience de l'ampleur et de la gravité du problème racial et de l'urgence qu'il y a à le résoudre.
Et on va voir apparaître un mouvement de masse avec des figures très connues comme Martin Luther King, bien évidemment, Rosa Parks, Malcolm X aussi.
Thurgood Marshall.
Thurgood Marshall.
Un juge qui finira à la Cour suprême.
Qui finira à la Cour suprême.
Un avocat.
Toute une série de grandes figures, hein, qui vont s'opposer et qui vont manifester ensemble, hein, dans des circonstances très violentes. Hein, King l'a toujours rappelé. Hein, la violence était extrême, hein, dans les rues du Sud dans les années 50-60. Hein, on envoyait les chiens.
Oui.
On aspergeait d'eau les manifestants, les emprisonnait. King lui-même sera emprisonné à plusieurs reprises. Et donc un racisme qui est très présent. Et de manière intéressante, si on réfléchit à cette histoire américaine, il est aussi présent dans le Nord. Et une des grandes surprises de Martin Luther King, hein, est de constater que l'opposition au mouvement pour les droits civiques à l'intégration pleine et entière des Afro-Américains dans la vie politique et économique du pays suscite aussi de très fortes oppositions dans le Nord. Et il a toujours dit, lorsqu'il manifeste dans les grandes villes du Nord, Chicago ou ailleurs, il n'y a pas beaucoup de différence en fait dans la réaction de la population blanche, hein, et dans la violence de la population blanche vis-à-vis des manifestants contre cette demande, hein, d'égalité et d'intégration pleine, hein, de la population afro-américaine.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Bien évidemment, après les années 60, le sort des Afro-Américains et des Afro-Américaines s'améliore considérablement. On voit apparaître une classe moyenne afro-américaine. Et Barack Obama est le pur produit, hein, de ce qui se joue dans les années 60-70. Et il l'a toujours dit, sans cette mobilisation, sans cette révolution économique aussi, cette apparition d'une classe moyenne afro-américaine, il n'aurait jamais accédé 50 ans plus tard à la Maison-Blanche. Mais il y a, surtout vis-à-vis des populations les plus pauvres, des populations les plus précaires dans la communauté afro-américaine, il y a encore, hein, des formes d'exclusion économique, hein, beaucoup de chômeurs, punitives. Beaucoup d'Afro-Américains sont incarcérés, hein, et de manière très élevée, hein, et disproportionnée, hein, par rapport à la population blanche. Mais également, on a vu apparaître depuis une vingtaine d'années des nouveaux dispositifs très fins,
oui,
de... charcutage, on dit en français, hein, des comtés électoraux pour faire en sorte que on redessine les comtés de manière très favorable, hein, à la population blanche, ou qu'on mette en place, hein, des mécanismes dans les États de limite du droit de vote, hein, pour les personnes qui ont été condamnées ou qui sont endettées. Et beaucoup y ont vu un rejet, en quelque sorte, hein, de cette Amérique raciste, hein, qui cherche toujours, en quelque sorte, à revenir en arrière par rapport aux grandes avancées du 19e et du 20e siècle.
Oui, par exemple, on voit qu'on réclame aussi aujourd'hui des papiers d'identité pour aller voter, qu'il y a moins de bureaux de vote dans certains quartiers, dans des États comme la Géorgie, par exemple. Il y a des retours, des réminiscences de cette histoire-là. Est-ce que les Noirs américains, les Africains américains sont les seuls victimes de cette difficulté d'accès au vote? Est-ce qu'il y a une spécificité ici aux États-Unis?
Oui, il y a une réelle spécificité. Tous les spécialistes convergent, hein, pour dire que tous ces mécanismes-là visent principalement la population afro-américaine, en particulier dans les États du Sud, mais ailleurs aussi, hein, le charcutage électoral ou les lois qui sont votées. Et on voit bien à quel point il y a toujours une réelle difficulté, hein, à mettre en œuvre cette égalité réelle, hein, dont parlaient les pères fondateurs, mais que les générations suivantes ont réellement mise en œuvre. Hein, mais on voit qu'elle est encore loin d'être tout à fait mise en œuvre.
Une démocratie parfaite à l'intérieur, qui se vit comme une démocratie modèle à l'extérieur, mais cela va souvent à l'encontre d'un autre désir américain, celui de l'impérialisme. Ça sera l'objet de notre prochain épisode.
États-Unis, anatomie d'une démocratie, est un podcast original de France Inter.